Et je donne la parole à Serge Tisseron, que nous sommes très heureux d'accueillir pour clôturer cette matinée. Donc Serge Tisseron est psychiatre.
Asseyez-vous
à ma place, alors Serge. Oui, je vous en prie. Oui. Donc Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des sciences, à qui nous avions donc emprunté des technologies, à qui nous avions emprunté l'intitulé, légèrement détourné de la matinée, et qui a accepté donc de faire une petite intervention de clôture à l'issue de laquelle vous pourrez également poser des questions. Merci Serge.
Voilà, merci beaucoup de cette invitation, puis c'est un plaisir de voir que vous soyez si nombreux, parce que comme j'étais devant, je voyais pas tout le monde, c'est vraiment agréable. Alors, je vous rassure tout de suite, je joue aux jeux vidéo, j'ai commencé en 1989 avec un jeu qui s'appelait Pirate, qui était chez Atari et qui m'a scotché, et après j'ai continué, puisque j'ai eu 4 enfants, à suivre avec chacun d'entre eux l'évolution des jeux vidéo, parce que j'avoue que au fur et à mesure que paraissaient de nouveaux jeux vidéo, je me débrouillais de plus en plus mal, donc heureusement à chaque fois une nouvelle génération de mes enfants m'a appris à m'en débrouiller au mieux, parce que j'avoue qu'ils étaient toujours beaucoup plus rapides que moi à comprendre comment il fallait faire. Alors, ce que je vais essayer de faire, parce qu'énormément de choses vous ont été dites, toutes formidables, tout a été balayé, ce que je vais essayer de faire dans quelques minutes, c'est de réfléchir à ce qui va vous arriver quand vous allez sortir d'ici. Vous allez entendre évidemment les mêmes bêtises sur les jeux vidéo que celles que vous avez entendues avant de venir ici. Et donc, maintenant vous êtes convaincus, j'en doute pas, mais ce que je voudrais essayer, c'est de vous donner des éléments de langage pour être convaincant, pour ne pas rester bouche ouverte, les yeux effarés, si tout d'un coup vous entendez d'énormes bêtises. Mais d'abord, comme quelqu'un a évoqué la règle 3-6-9-12 et que bon, c'est moi qui l'ai imaginé en 2008, je voudrais en dire quelques mots. En 2008, la règle 3-6-9-12, c'était la règle des 4 pas. Un pas de télé avant 3 ans, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de tablette, mais il y avait des consoles de jeu. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas jouer aux jeux vidéo entre 3 et 6 ans. J'ai dit pas de console de jeu personnelle. Si on achète une tablette de jeu familiale, et je disais toujours à l'époque, on achète une tablette et le même jour, un gros feutre. Et sur le feutre, avec le feutre, on écrit sur la tablette le nom de la famille. Et quand l'enfant dit encore, 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 le parent dit non, regarde, la tablette, elle est familiale. Donc, c'est nous, les parents, qui en réglons l'usage. Et puis, 3, 6, 9, 12. 9, c'était pas d'Internet avant 9 ans et pas d'Internet libre, donc avant 12 ans. Alors, Michael Sorin a très bien résumé les enjeux des balises 3, 6, 9, 12, qui ensuite ont beaucoup évolué pour être des conseils positifs et pas des conseils négatifs. Michael Sorin a très bien résumé les choses en parlant de ritualisation. Quand j'ai proposé 3-6-9-12, beaucoup de collègues m'ont dit « mais 3-6-9-12, ça ne correspond pas aux âges d'évolution de l'enfant d'après Piaget ». Ben, j'ai répondu « oui, parce que Piaget, ben, ça ne rentre pas dans les familles ». Par contre, les familles voient bien que leur enfant rentre en maternelle à 3 ans, parce que maintenant c'est 2, à l'époque c'était 3, en élémentaire à 6 ans, qu'il arrive en CM2 à 9 ans et que là beaucoup de choses changent et qu'il rentre en lycée. Il rentre en collège, pardon, mais la première année, c'est encore un peu le prolongement de l'élémentaire, et finalement, c'est seulement en cinquième qu'il trouve ses marques. Donc 3, 6, 9, 12, j'ai dit, ça correspond à la manière dont les parents et l'enfant vivent l'évolution de l'enfant. Et d'ailleurs, l'éducation nationale, d'une certaine manière, bien que j'ai rien demandé, m'a donné raison, puisque vous savez que maintenant, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, c'est 3, 6, 9, 12. Donc l'idée, c'était de donner des repères aux parents pour qu'ils puissent dire à leur enfant, ben non, il y aura tel changement dans ta vie au moment où tu vas changer d'établissement scolaire, tu vas changer de rythme scolaire, tu vas changer de mode d'apprentissage. Alors Vanessa Lalo a évoqué l'idée que ben, quand il y a plusieurs enfants, ça ne marche pas. Ben, moi, j'ai eu 4 enfants et j'ai la chance d'avoir plus d'une seule pièce dans mon appartement. Et même d'ailleurs dans une seule pièce, il est arrivé que mon fils regarde la télévision et ma fille qui avait 4 ans de moins regarde un programme à elle sur un ordinateur portable avec des écouteurs sur les oreilles à quelques mètres en tournant le dos. Ce qui veut dire que dans toutes les familles aujourd'hui, il y a tellement d'outils numériques qu'il est toujours possible de donner à chaque tranche d'âge les programmes qui lui correspondent. Et puis quand évidemment on peut avoir un programme commun, c'est encore mieux, on le regarde ensemble. parce qu'on l'a vu pendant le Covid, pendant la pandémie, les vieux de Funès, les vieux Fernandel, les gens regardaient ça beaucoup, on regarde ça en famille. Et donc, du coup, c'est vachement bien, on peut en parler ensemble, etc. Voilà, donc 36912, allez sur le site si vous avez des doutes sur la manière de comprendre. Vous verrez que ça s'appelle maintenant 36912+, parce que des gens imaginaient qu'on ne s'occupait pas des plus de 12 ans. On dit non, on s'en occupe aussi. Donc vous verrez, il y a plein de conseils, 36912+. Voilà, bon, si vous avez plus de questions, j'espère que vous n'hésiterez pas à me les poser. Alors maintenant, j'en arrive à l'important de ce que je voulais vous dire. Avoir des éléments de langage, savoir quoi répondre quand vous entendez un mot qui fait problème, visiblement, pour votre interlocuteur. Alors, j'en ai listé quelques-uns. Vous allez voir qu'on va recouper ce qui a été dit. Je vais simplement le reformuler à ma façon. Jeux vidéo. Les jeux vidéo, non, jeux vidéo, ça va pas. Les enfants qui jouent aux jeux vidéo, problème jeux vidéo. Alors, pensez tout de suite bac à sable. D'ailleurs, des créateurs de jeux vidéo disent que les jeux vidéo sont bac à sable. Ça veut dire quoi, bac à sable ? Ça veut dire que tout de suite, vous mettez l'accent sur la manière de jouer, sur les possibilités du jeu et la manière de jouer. En fait, aujourd'hui, la plupart des jeux sont bac à sable. On peut y faire des tas de choses. Alors, comme ça n'a pas été évoqué, je l'évoque, il y a des joueurs qui sont plus orientés vers la compétition. Ils essayent de gagner le plus possible. Il y en a qui sont axés sur la socialisation. Dans les gens en réseau, il arrive que les combattants se retrouvent dans un endroit tranquille. Les chevaliers commencent à parler de leurs armes, les sorciers de leurs sorts, les voleurs de leur vol. Et puis, ils peuvent se mettre à parler de leur vie. Et donc, il y a même des gens qui se sont rencontrés dans les jeux vidéo qui se sont mariés. Donc, il y a toute une socialisation, la compétition, la socialisation. Vous avez des explorateurs, il y a même des géographes amateurs qui sont amusés à tracer les frontières des jeux vidéo en réseau. Où un jeu vidéo comme World of Warcraft s'arrête-t-il ? À la montagne, à la mer, à un mur, on ne sait pas. Donc les frontières, donc explorateurs. Et puis, vous avez les esthètes, dont je suis d'ailleurs. Je me promène pour essayer de... Parce qu'il y a des choses magnifiques dans les jeux vidéo. D'ailleurs, vous savez que quand il y a des fois des augmentations payantes dans lesquelles on entre dans des espaces beaucoup plus esthétiques. C'est genre une promotion de vente. Il y a une extension très belle. Les esthètes veulent y aller, ils payent. Donc, jeux vidéo, pensez bac à sable. Alors, deuxième chose à laquelle, qui est incontournable, c'est évidemment la question addiction. Alors, la question addiction, elle est très compliquée. Il faut que vous pensiez cause et origine. Cause et origine. Un enfant se scotche à sa tablette. Est-ce que c'est la faute à la tablette ? Alors là, quand on commence à se préoccuper de ce qui s'est passé, on s'aperçoit que très souvent, il y a eu des changements dans la vie familiale. Quand un enfant passe d'un jeu ordinaire, normal, à un jeu problématique, il y a toujours eu des changements, quand il commence à se scotcher, comme on dit. Et ces changements, ça peut être des changements dans sa vie personnelle. Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'enfants déscolarisés, scotchés aux jeux vidéo chez eux, sont en fait des enfants qui ont été victimes de harcèlement. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça montre bien que corrélation ne vaut pas causalité. D'ailleurs, moi, quand je commençais à travailler sur les jeux vidéo, il y avait des chercheurs qui disaient, ben oui, ça y est, on a compris, il y a des élèves qui sont tellement intéressés par les jeux vidéo, ils développent une addiction aux jeux vidéo, et comme le jeu vidéo, c'est plus intéressant que l'école, ils perdent le goût de l'école et ils restent chez eux et ils développent une addiction grave aux jeux vidéo. Donc il y avait une corrélation, en effet, jeux vidéo, déscolarisation. Mais d'autres travaux ont montré, quand je travaillais à la maison des ados, on en a eu 4 sur 6 comme ça, dans un groupe d'échange, d'autres travaux ont montré que beaucoup de jeunes déscolarisés scotchés aux jeux vidéo chez eux avaient d'abord été victimes de harcèlement, ils avaient quitté l'école, ils s'ennuyaient chez eux, ils s'étaient mis à jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, par rapport aux hikikomori, c'est un problème très compliqué, les hikikomori, d'abord c'est une culture totalement différente de la nôtre, et les hikikomori en plus ne sont pas forcément des joueurs de jeux vidéo. Il y a des hikikomori qui jouent aux jeux vidéo, il y en a qui font le ménage, il y en a qui s'occupent autrement sur les réseaux sociaux. Hikikomori ne veut pas dire jeux vidéo. Les hikikomori, c'est des gens en rupture scolaire, pour diverses raisons, qui n'ont pas la possibilité de retourner à l'école au Japon. C'est très particulier à la culture japonaise, parce qu'en France, quand un élève est déscolarisé pendant 15 jours, même 3 jours, et qu'il retourne à l'école, on l'accueille, ah ben, bienvenue. Mais au Japon, quand un élève quitte l'école 3 jours, il ne peut pas revenir, c'est la honte. Donc les parents le cachent. Et du coup, il s'embête. Et du coup, à la maison, eh ben, il essaye de s'occuper comme il peut. Voilà. Puis les années passent, et ses enfants, évidemment, aujourd'hui, font l'objet de beaucoup d'attention de la part des pouvoirs publics pour arriver à les resocialiser, parce que la société les honnit, la société les hait. Et donc, du coup, c'est très compliqué de les resocialiser. Donc, heureusement, les conditions sociales ne sont pas du tout les mêmes en France. Il y a d'autres conditions sociales qui sont différentes aussi. Et du coup, les élèves déscolarisés peuvent retrouver leur place plus facilement. Il n'y a pas de, stigmatisation sociale aussi grave qu'au Japon. Il serait très problématique qu'on identifie hikikomori et jeux vidéo excessifs. Ça n'a rien à voir. Il serait aussi très problématique qu'on stigmatise les enfants qui ratent l'école ou qui ne vont plus à l'école, qui se déscolarisent. Encore une fois, souvent, c'est victime de harcèlement. Donc, autour... de l'addiction, je pourrais en parler plus si vous voulez, mais il faut bien penser cause et origine. La cause apparente n'est pas forcément l'origine du problème. Il y a des enfants qui peuvent être victimes de harcèlement, il y en a qui sont victimes, si on peut dire, victimes collatérales de l'annonce du divorce de leurs parents, il y en a qui entrent dans une pathologie mentale, c'est pour ça qu'une consultation en psychologie est toujours intéressante, et puis il y en a tout simplement qui font leur crise d'adolescence. Quand un thérapeute vous dit... je peux guérir les joueurs excessifs de jeux vidéo en 4 ans, ben, c'est un charlatan. Parce que les joueurs de jeux vidéo ados, ils guérissent tout seuls. Statistiquement, la plupart des ados garçons s'immergent dans les jeux vidéo, parce que c'est une manière de fuir les angoisses de l'adolescence, du corps qui se transforme, du désir sexuel qui apparaît, qu'on ne sait pas quoi en faire, des nouvelles formes de colère qui s'identifient à la rage, la rage destructrice, et plus seulement les petites colères de l'enfant qu'il arrive à maîtriser à 8-9 ans. Voilà. Et donc, du coup, la plupart des ados garçons s'immergent dans les jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas le contrôle des impulsions. Et du coup, ils ne peuvent pas résister à la séduction des algorithmes. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, ça, c'est lié au fait que le cerveau des adolescents mûrit en deux temps. D'abord, alors c'est assez bizarre, mais vous allez voir que ça n'a pas que des inconvénients. D'abord, les parties postérieures et inférieures du crâne, donc les régions cérébrales postérieures et inférieures du cerveau, vont mûrir et... avoir pour conséquence qu'au début de la puberté, l'enfant va commencer à éprouver les mêmes sensations, les mêmes émotions, les mêmes états du corps que l'adulte, et il va en être bouleversé, comme un adulte. Mais à la différence de l'adulte, l'adolescent, à cet âge-là, n'a pas encore eu une maturation suffisante des régions antérieures de son cerveau, le cortex préfrontal, pour pouvoir contrôler ses émotions et ses impulsions. Donc, 13 ou 12, 15 ans, c'est l'âge de toutes les conneries. Parce que l'ado les imagine comme nous, on peut les imaginer adultes quand on n'a pas trop d'inhibition, mais en plus, ils les font. Et donc, cet âge-là, qui est le cauchemar des parents et des pédagogues, il faut bien comprendre que ce n'est pas finalement si négatif que ça. Puisque beaucoup d'études ont montré que cette particularité de l'adolescence est à l'origine de l'extraordinaire créativité des adolescents. Quand vous regardez aujourd'hui ceux qui sont en train de refaire le monde, pas forcément comme on aurait envie qu'ils soient d'ailleurs, hein, quand vous regardez Zuckerberg, Elon Musk et d'autres, vous voyez que, en fait, ils ont commencé à bouleverser les règles du jeu très tôt. Hein. Et dans toutes les cultures, les jeunes innovent. Et les adultes perfectionnent la création des jeunes, et c'est ainsi que l'évolution technologique peut être possible dans une culture. Parce qu'à partir d'un certain âge, on peut perfectionner, on peut très difficilement innover. Quels sont les grands innovateurs? Les ados. C'est les ados qui changent à chaque génération la technologie et la culture. Et ensuite, en vieillissant, ils la perfectionnent. Puis très vite, ils s'entourent d'adultes qui vont aussi les aider à perfectionner les innovations. Et il paraît, que, d'après les ethnologues, que les nouvelles techniques de chasse, de pêche, etc., dans toutes les cultures, sont toujours inventées par les ados. Parce que les adultes disent aux ados, écoutez-nous, on sait comment faire. Les ados disent, oui, cause toujours, tu m'intéresses. Et les ados font à leur tête... ils innovent, ils découvrent, et les adultes disent « mais c'est pas si con finalement, on pourrait essayer de prendre le même chemin et de le développer ». Donc ce que nous vivons dans notre vie familiale, notre vie professionnelle, de pédagogue éventuelle, en fait c'est l'aspect le moins gratifiant de cette capacité qu'ont les ados de n'accepter aucune règle, de tout essayer et donc d'innover. Et vous voyez, quand je dis ça, on n'est pas si loin des jeux vidéo, puisque pour avancer dans un jeu vidéo, il faut tout essayer. Parce que des fois, il y a des trucs, des jeux vidéo, Monkey Island, il fallait mettre une oie dans un canon. C'est pour ça qu'il y a PC Solus et des trucs comme ça, parce qu'il y a souvent dans les jeux vidéo des trucs abracadabrants. Alors, peut-être parfois un peu trop abracadabrants, parce que ça oblige d'aller chercher les solutions sur Internet, ce qui est, après, on prend la mauvaise habitude. Mais en tout cas, vous voyez, le jeu vidéo, quand même, il permet à chacun de renouer, à mon avis, avec cette période magique de l'adolescence, où on se sent la liberté de tout essayer. Parce que l'adolescent n'a pas le contrôle des impulsions, mais nous, notre contrôle des impulsions, ben, il faut quand même de temps en temps le lâcher, parce que sinon la vie devient ennuyeuse. Et le jeu vidéo, c'est une bonne occasion, parce qu'on peut tout y essayer. Et puis quand ça marche, c'est merveilleux. Donc, addiction, pensez à cause, origine, et puis à toutes les problématiques qui peuvent interférer avec la capacité d'un jeune, le problème de maturation neuronale, hein, qui fait qu'on peut difficilement parler d'addiction à l'adolescence, puisque quelqu'un qui a une addiction est défini comme quelqu'un qui perd le contrôle des impulsions, alors que l'adolescent ne l'a pas encore construit. Alors, troisième point dont je voulais dire quelques mots, c'est autour de ce qui a été évoqué de la passion, qui est extrêmement important. C'est le basculement du jeu excessif non problématique au jeu excessif problématique. Quelqu'un peut jouer énormément, ça a été évoqué, des joueurs en ligne, des joueurs professionnels qui jouent 7 heures par jour, parfois 10 heures. Donc, le jeu excessif n'est pas forcément problématique. Il n'est pas forcément pathologique. Le jeu excessif, il peut relever, ça a été très bien dit, de la passion. Alors, comment définir une passion ? Ben, la passion, c'est la recherche du plaisir et le jeu pathologique, c'est la fuite du déplaisir. C'est très différent. Quand on voit avec des joueurs pathologiques ou problématiques, alors on n'aime pas trop parler pathologique, on parle problématique, mais ça revient à peu près au même. C'est juste une façon de ne pas pointer comme maladie, parce que ça peut être de peu de temps. Hein, voilà. Mais donc quand on parle de joueurs problématiques, c'est en général des gens qui cherchent à fuir un déplaisir. Et donc du coup, leur jeu appauvrit leur vie, alors que la passion enrichit la vie. Et ça a été très bien dit, la passion enrichit la vie de deux façons, par la créativité et par la socialisation. Et ça, c'est toujours deux repères qu'il faut avoir quand on voit un joueur excessif. Il ne faut pas se précipiter en disant c'est problématique. Il faut voir si ça relève de la passion ou de la souffrance. Et si ça relève de la passion, on s'en aperçoit assez vite. Ben c'est recherche du plaisir avec créativité et socialisation. C'est pour ça que quand des parents voient un jeune sur des jeux vidéo en ligne, sur un jeu vidéo, il faut toujours lui demander est-ce que tu joues seul ou est-ce que tu joues avec d'autres ? Et si quelqu'un joue seul, ben c'est problématique. L'enfant qui joue seul à la maison, alors qu'il dispose de jeux en réseau, c'est un enfant qui est seul dans la cour de récréation. Et s'il joue avec des inconnus, ben c'est probablement qu'il n'a pas beaucoup de copains non plus. Mais quand un enfant joue à des jeux en réseau avec des camarades qu'il retrouve à l'école la journée, ne vous inquiétez pas. Il va évoluer avec sa tranche d'âge, il va évoluer avec ses camarades, et en général, à 16 ans, 17 ans, il y a à l'âge où le contrôle des impulsions commence à être acquis. Pour les neurologues, il est acquis seulement à 25 ans, mais bon, heureusement, il est bien construit déjà auparavant. Hein. Enfin, on ne peut pas dire qu'il est totalement construit avant 25 ans, mais déjà à 17, 16, 17, 18 ans, ça commence à être suffisamment posé pour qu'en règle générale, le joueur, à ce moment-là, commence à réinvestir sa vie scolaire ou commencer à investir sa vie amoureuse. Il sort de la grande angoisse de la crise d'adolescence, hein, où on a l'impression que personne ne nous attend, alors que tout le monde devrait nous attendre. Et puis comment faire de tout ce qu'on éprouve et de tout ce qui nous inquiète, ouais. Donc, bien penser que le jeu excessif n'est pas forcément problématique. Voilà, et puis la violence, on nous a évoqué la violence, alors là aussi, quand on évoque la violence, pensez tout de suite contextualisation. Si quelqu'un vous dit « les jeux violents rendent violents », vous dites oui, les jeux violents, enfin les jeux violents habitués à la violence. Détruit les jeux vidéo habitués à la violence dans les jeux vidéo violents. C'est ça, c'est la contextualisation. C'est-à-dire qu'il a été montré que, vous savez, dans les années... le privilège de l'âge, c'est d'avoir suivi les études qui ont toutes été démenties les unes après les autres. Et il y a eu une époque autour des jeux violents, il y avait des études qui consistaient, pour certains profs d'université, à diviser leurs étudiants en deux, les volontaires, et puis la moitié jouait à des jeux violents, puis après ils remplissaient des questionnaires, et la moitié jouait à des jeux non violents, et après ils remplissaient des questionnaires. Et donc ces profs d'université exhibaient les résultats en disant, voyez, ceux qui ont joué à des jeux violents ont des réponses beaucoup plus violentes. Ce qui était, c'était bourré de biais cognitifs. Un premier biais cognitif, c'est que on peut penser une chose et en faire une autre. Ce n'est pas parce qu'un jeu violent modifie les représentations qu'il modifie les comportements. On connaît tous des gens qui disent une chose et qui en font une autre. Pas la peine d'avoir fait 20 ans d'études pour le savoir. Donc en effet, ce qui était noté, c'était un changement des représentations, pas un changement des comportements. Or, les représentations des gens dans la vie sociale, excusez-moi, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les comportements. Et puis le deuxième biais cognitif, c'était que c'était fait aussitôt après. Et ben, aussitôt après... ça n'a pas de valeur, parce qu'après les gens ils sortent dehors, ils trouvent des copains, ils discutent, et puis l'influence de ce qui a été joué, ça s'efface. Voilà. Donc du coup il n'y a pas d'études à long terme. Et aujourd'hui on met beaucoup l'accent sur la contextualisation. Alors l'Académie américaine de pédiatrie essaye de continuer à faire valoir, à mettre en place des protocoles qui démontrent que les jeux vidéo violents pourraient modifier les comportements. Mais en tout cas, il y a un élément majeur dans cette modification, c'est la contextualisation. C'est-à-dire, si vous jouez à un jeu qui reproduit votre environnement familial quotidien, ou votre environnement citadin quotidien, il peut y avoir une influence sur les comportements, encore ça se discute, mais il peut. Par contre, si vous jouez à un jeu moyenâgeux, un jeu à l'époque romaine, un jeu heroic fantasy, un jeu de science-fiction, eh bien, l'effet de contextualisation ne joue pas. Et je vais vous donner sur la contextualisation un exemple, parce que je trouve que ça frappe encore beaucoup plus sur les jeux vidéo. Vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ernst Jünger, qui a fait la guerre de 14-18, qui a écrit sur la violence pendant la guerre des pages inoubliables, la guerre comme expérience intérieure, et il raconte l'histoire suivante, moi, qui m'a beaucoup frappé, parce que ça montre l'importance de la contextualisation. Ernst Jünger raconte toutes les horreurs qu'il découvre à la guerre, des camarades qui explosent avec une mine, d'autres explosent avec une grenade, des plaies abominables et tout, il écrit ça, horrible. Et puis il dit, un jour je suis blessé et on m'emmène vers l'arrière et là on m'emmène à dos d'homme à l'arrière, 14-18, c'est en 1917, ça lui arrive, et il dit, là on va me mettre dans une voiture pour m'emmener à l'hôpital, et la voiture, vous savez, elle se met en route à la manivelle. Et donc le conducteur tourne la manivelle et à ce moment-là, la manivelle, un retour de manivelle, et il y a une phalange du conducteur qui saute, donc il y a du sang. Et Hans Jünger dit, c'était insupportable. Et là, il y a toute une réflexion. Il dit, mais pourquoi c'est aussi insupportable de voir un peu de sang avec une phalange qui saute, alors qu'une heure avant, dans les tranchées, c'était l'horreur absolue. Et il dit, c'est la contextualisation. Il dit, je me suis totalement habitué à l'horreur des tranchées, je ne me suis absolument pas habitué à la phalange d'un conducteur d'automobile qui saute dans un paysage de printemps. Et ça, c'est exactement la problématique des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une désensibilisation, mais dans le cadre de ce qui est représenté, d'abord dans le cadre du jeu lui-même, et s'il y a généralisation dans le cadre de ce que représente le jeu lui-même. Voilà, on arrive un peu au bout, hein, rassurez-vous. Et donc la dernière chose dont je voulais dire un mot, quand même, heureusement on en a parlé, c'est les GAFAM. Les GAFAM, c'est les algorithmes. Alors on vous l'a dit, alors il y a un mot qui n'a pas été dit, c'est les jeux, où je n'ai pas entendu s'il a été dit, c'est les jeux free-to-play. Les jeux free-to-play, c'est gratuit à jouer. Ne donnez jamais d'argent à un enfant qui joue à un jeu free-to-play pour qu'il ait une plus belle apparence, qu'il ait un pas de danse plus convaincant pour les autres joueurs, etc. Parce que le free-to-play utilise aujourd'hui tous les algorithmes qui ont fait leur preuve dans les jeux de hasard et d'argent. On a évoqué tout à l'heure la motivation par l'incertitude, hein, les fameux loot box, mais vous avez aussi 4-5 autres biais cognitifs qui sont exploités dans ces jeux. Et j'ai entendu dire, c'est pas certitude, que le jeu Fortnite aurait été le premier jeu à être conçu non seulement par des designers et des informaticiens, mais aussi par des psychologues, de telle façon que tous les biais cognitifs connus y soient exploités. Alors qu'avant Fortnite, les biais cognitifs étaient exploités par les jeux vidéo un peu au pif, au jugé. Les concepteurs en mettaient un, ils en mettaient deux. Fortnite, premier jeu, il y en aurait cinq ou six, six. Voilà. Et donc ces biais cognitifs, ceux qui sont exploités dans les jeux de hasard et d'argent. Alors il ne faut pas non plus s'exciter là-dessus, parce que les joueurs de jeux vidéo, comme je vous évoquais en commençant, ils ont beaucoup d'autres raisons de jouer aux jeux vidéo que le plaisir donné par l'exploitation de ces biais cognitifs. Hein, je vous l'ai dit, plaisir esthétique, plaisir de la compétition, plaisir de la socialisation, toutes choses qui n'existent pas dans les jeux de hasard et d'argent. Donc le fait que les biais cognitifs soient exploités de la même manière ne veut pas dire que c'est le même impact. Mais ça a quand même un impact important. C'est pour ça que dès qu'on pense GAFAM, biais cognitifs et algorithmes, il faut penser prévention. Et moi, je me bats, enfin, avec un petit moyen, pour que les fabricants de jeux vidéo incluent des explications sur les biais cognitifs. Et je pense que dans la mesure où les bibliothèques négocient, introduisent les jeux vidéo dans les bibliothèques, je pense qu'il serait bien, en contrepartie, de demander aux fabricants des jeux vidéo de fournir des modes d'emploi visuels, des petits scénarios visuels pour expliquer aux usagers les biais cognitifs. L'avenir, la façon dont les biais cognitifs sont exploités. Je pense que l'avenir appartient à ceux qui arriveront à avoir une idée de la manière dont leurs compétences sont exploitées dans des activités de réseaux sociaux, mais aussi de jeux vidéo. Voilà donc le petit tour que je voulais faire. Et simplement un dernier mot, c'est que j'évoquais tout à l'heure, si vous avez dans votre environnement, parce qu'il faut quand même toujours revenir à des choses simples, des joueurs de jeux vidéo qui vous paraissent excessifs, réfléchissez bien, excessif, c'est pas forcément pathologique. Et puis posez la question, est-ce que tu joues seul avec d'autres? Est-ce que tu as quels genres d'activités de création tu as dans le jeu? Et puis est-ce que tu as pensé à faire ton métier plus tard dans les professions du jeu vidéo? Ainsi, si la réponse à ces questions est à peu près satisfaisante, il ne faut pas s'inquiéter. Hein, voilà. Par contre, si c'est un joueur qui joue tout seul, qui refuse de penser à son avenir et qui a peu de socialisation, là, il faut s'en inquiéter. Mais ce qui a quand même été largement montré, c'est que les seuls joueurs excessifs qui risquent de basculer dans la catégorie problématique, c'est après la fin de l'adolescence, les joueurs qui présentent des troubles mentaux, c'est ce qu'on appelle la comorbidité, et heureusement, ils ne sont pas nombreux. Voilà. Merci de votre attention. Alors, si vous avez quelques questions, hein, moi je me... vous avez le temps, bien que le temps passe. Ou questions aux collègues de tout à l'heure.
En ligne, au contraire, une collègue nous dit qu'on a beaucoup parlé lors de la matinée d'études de l'addiction au jeu des enfants, enfin, en tout cas évoqué l'addiction chez les enfants, mais quid des adultes qui seraient addicts au jeu? Voilà, c'était la question.
Oui, très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, le mot addiction s'applique mal aux enfants. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas vraiment tranché le problème. Quand l'OMS a décidé qu'il existait une addiction comportementale, qui est d'abord gaming disorder, comme Michael Stora a rappelé, il faut qu'il y ait plus d'un an de désocialisation, déscolarisation pour qu'on parle d'addiction. Sinon, c'est du gaming disorder, trouble du jeu vidéo. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas dit si ça s'appliquait aux adultes et aux enfants, ou seulement aux adultes. Et si ça s'applique aux enfants, à partir de quel âge? Puisque les enfants n'ont pas le contrôle des impulsions. Alors, pour ce qui concerne l'addiction des adultes, oui, c'est le même problème. Je voyais un jour un addictologue qui me disait que son fils majeur avait perdu son emploi, qu'il s'était mis à jouer comme un fou. Et cet addictologue me disait, je n'en empêche pas parce que je préfère qu'il fasse ça plutôt que s'alcooliser ou se mettre à prendre des tranquillisants en quantité massive. Parce que cet addictologue savait bien qu'il n'y a pas de bouleversement biochimique correspondant au fait de jouer de manière problématique. C'est pour ça aussi que le mot d'addiction doit s'accompagner tout de suite du mot comportemental. Hein. Et donc, vous avez entendu parler de la dopamine, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La dopamine, il y en a partout. Hein, voilà. Dès qu'on fait quelque chose qui fait plaisir, même un peu plaisir, on a de la dopamine. Et des travaux ont montré que ce qui est important, c'est beaucoup plus une balance dans le cerveau qu'entre deux substances, noradrénaline d'un côté, sérotonine de l'autre. Et c'est cette balance noradrénaline-sérotonine qui fait ou pas basculer dans l'addiction. Et on risque de basculer dans l'addiction quand on a un gros joueur de jeu vidéo, soit si on développe un trouble mental, qui peut être aggravée éventuellement par la situation sociale, hein, perte d'emploi, divorce, traumatisme grave, etc. Mais aussi si on a une addiction à un produit qui déséquilibre la balance noradrénaline-sérotonine, et le produit qui déstructure le plus cette balance, c'est le tabac. Le tabac, ensuite l'alcool, l'héroïne, cocaïne, etc. Donc du coup, quelqu'un qui ne fume pas ou qui n'a pas d'addiction au tabac, qui n'a pas d'addiction à l'alcool, qui a un jeu vidéo excessif, problématique, il a toutes les chances d'en sortir. Si en revanche, c'est un consommateur de substances toxiques, ça sera beaucoup plus compliqué. Et c'est un trouble neurologique, trouble mental associé, beaucoup plus compliqué encore. Donc voilà, ça veut dire que c'est vraiment du cas par cas. Mais l'addiction aux jeux vidéo chez l'adulte, oui, bien sûr, mais l'addiction comportementale. L'addiction comportementale qui a quand même une conséquence importante, c'est que quand la personne cesse de jouer, pour diverses raisons, elle retrouve un emploi, trouve un conjoint, une conjointe, etc. Eh bien, il n'y a pas de risque de rechute. C'est-à-dire que les joueurs qui ont été excessifs, voire problématiques, quand ils vont mieux, ils deviennent des joueurs occasionnels. Alors qu'on n'a jamais entendu dire qu'un fumeur excessif, quand il arrêtait de fumer, il devient un fumeur occasionnel. Un buveur excessif, quand il arrêtait de boire, un buveur occasionnel. Mais le joueur, c'est ce que disent même des addictologues, hein, c'est que ce qu'on attend d'un joueur excessif, c'est qu'il devienne un joueur modéré. On n'attend pas d'un fumeur excessif qu'il devienne un fumeur modéré. Donc c'est là que l'expression addiction comportementale est très importante, parce qu'elle a beaucoup de conséquences en pratique.
Merci. On va prendre peut-être juste une dernière question, parce qu'il est 12h45.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis curieuse sur la réflexion qu'il y a autour des joueuses, plus particulièrement des joueuses ados. Je joue depuis toujours, mais j'ai pu constater que les femmes de mon entourage qui jouent, je les ai rencontrées sur le tard, parce que au début de notre, au moment où on commence à jouer aux jeux vidéo, on ne l'évoque pas spécialement à notre entourage. Donc il y a beaucoup de pratiques plutôt très individuelles, et on ne va pas en parler dans la cour de récré, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce que la question de l'addiction sur les joueuses excluait aussi la question de est-ce que c'est pathologique parce qu'elles n'en parlent pas dans la cour de récré? Quelles étaient les réflexions à ce niveau-là?
Non, pour qu'on puisse parler de jeux pathologiques, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient réunis. Hein. On a évoqué le trouble du sommeil. Hein. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le trouble de l'alimentation. Pour l'Organisation mondiale de la santé, relisez la définition. Hein. C'est gaming disorder, trouble du jeu vidéo, qui devient une addiction seulement s'il y a une désocialisation ou déscolarisation complète de plus d'une année. Le joueur vivant tout seul, replié dans sa chambre, en se faisant apporter éventuellement ses repas et éventuellement en pissant dans une bouteille. Voilà. Donc heureusement, ce n'est pas énormément de monde. Mais le fait de ne pas parler de jeu auquel on joue, ça peut être lié à une certaine honte. Si ma communauté joue à un jeu, que moi je joue à un autre, je n'en parle pas. Mais encore une fois, ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce n'est pas addiction, pas addiction. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est si quelqu'un est dans le jeu excessif, qui n'est pas une source de plaisir, mais qui est une manière de fuir le déplaisir, la souffrance, quelle est la cause de la souffrance? C'est cause et origine. Dès que vous entendez addiction, il faut penser cause et origine. Quelle est l'origine? Et je vous disais, l'origine peut y en avoir plusieurs. La pire étant le trouble mental, la plus mineure étant la crise d'adolescence. Et entre les deux, les situations de harcèlement scolaire, les divorces de la famille, les deuils, le deuil éventuellement d'un grand-parent qui s'est occupé de l'enfant quand il était petit. Voilà, donc ça marque aussi beaucoup, hein, l'adolescence. Et donc toujours la question à se poser, c'est à quel moment il y a eu ce basculement? À quel moment quelqu'un qui joue à peu près de manière modérée va jouer en cachette le soir avec son smartphone sous la couette, etc. Donc conseil d'ailleurs, jamais de smartphone dans les chambres, jamais. Enfin, on peut le mettre dans sa chambre pour y jouer avant d'aller dormir, mais jamais de smartphone dans la chambre pendant le sommeil. Si vous voulez, finalement les règles qui peuvent éviter aux ados de basculer dans les écrans excessifs ou jeux vidéo problématiques, c'est des règles familiales, que personne n'emmène son smartphone dans la chambre, voilà, qu'il y ait des moments sans smartphone, qu'il n'y en ait pas pendant on n'utilise pas pendant les repas, etc. C'est exactement les mêmes règles. Et puis, on ne l'a pas dit peut-être assez, mais que les parents, enfin on l'a évoqué un peu, mais c'est vraiment important, que les adultes, que les parents fassent parler les enfants de leur jeu. Parce qu'en commençant à parler de leur jeu, c'est ce que connaissent tous les thérapeutes. En tant que thérapeute d'ado, j'ai toujours demandé aux ados de parler de leur jeu. Je n'ai jamais demandé de parler de leur vie. Ils ne veulent pas. Et ils s'enfuient tout de suite si on pose des questions sur leur vie. Parler de leur jeu, mais quand ils se mettent à parler de leur jeu, petit à petit, ils vont parler de leur vie. Ils vont parler de leur bonheur dans les jeux, de leur souffrance dans les jeux, des amitiés trahies, des amours impossibles, des déceptions, des échecs, des enthousiasmes. Et ils vont parler finalement d'eux. Voilà. Donc prendre du temps pour parler avec les joueurs de leur jeu, c'est une manière de les inviter à construire une narration d'eux-mêmes par personnage interposé. C'est que l'autonarration, la construction de soi, c'est quand même la clé de sa propre continuité mentale à travers les épreuves de la vie. Et pour les ados, souvent, ça doit commencer par le fait de raconter ce qui arrive à leur avatar avant de pouvoir raconter ce qui leur arrive à eux intimement. Et ça, si vous arrivez à faire dans les bibliothèques aussi des groupes où les jeunes parlent des jeux, ben, vous verrez, très vite, ils parlent d'eux. Et éventuellement, de souffrances personnelles, scolaires, par exemple, familiales, mais aussi de leur parcours, etc. Donc ça, c'est un autre élément du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un formidable starter pour que des gens qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes puissent en parler par avatar interposé.
Merci.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais monter sur la scène pour la vidéo. Je pense qu'on peut applaudir Serge Tisseron. Merci beaucoup. Désolée de devoir couper court à toutes ces questions. J'imagine que vous en avez encore beaucoup parce que c'est un sujet passionnant et que nos invités ont évoqué beaucoup de choses. Je les remercie chaleureusement pour leurs interventions. Merci à Julie et Christophe pour la modération et la préparation de ces tables rondes. Merci aux collègues de la régie. Merci aux collègues de la délégation à la coopération nationale et internationale qui nous font toute la logistique pour ces matinées d'études. Et merci bien sûr à Trilogue pour l'interprétation. J'espère que j'ai oublié personne. Et surtout, je vous invite. Allez-y, applaudissez-les, elle le mérite. Et surtout, je vous remercie à vous de nous avoir suivis et je vous invite dès maintenant, cet après-midi, demain, après-demain, lundi, à nous rejoindre sur le festival. Je vous ai mis des petits programmes complets du festival et également le programme de notre forum du jeu vidéo, donc détaillé avec les tables rondes détaillées de demain après-midi qui se déroulera aussi ici. Ce soir, on a, alors dans la bibliothèque, vous retrouverez toute notre offre ludique en libre accès. Ce soir, ici également, on aura, on aura la projection de Silent Hill de Christophe Gans, suivie d'une table ronde qui commentera donc ce film. Je vous laisse découvrir nos invités, sinon je vais être trop longue. Demain, donc notre forum du jeu vidéo aussi ici, encore l'offre de la bibliothèque, et demain soir, encore ici, les Nouilles Rampantes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. C'est un collectif d'auteurs, dessinateurs, créateurs. Vous y retrouverez Boulet qui nous a fait tous les designs de cette année, qui est un très grand auteur de BD. Voilà, ils viendront nous raconter des histoires d'horreur. Il y a encore plein d'autres choses dans la programmation dimanche et lundi. Je vous laisserai découvrir ça. Voilà, et je vous laisse ici. Merci beaucoup.